jamais on pourra retrouver la paix qu'elle lui peut donner ailleurs. Amen. Le monde voudrait payer cher pour avoir la paix de Dieu. Amen. Quand s'élèvent toutes sortes de choses. Combien de fois il y a des gens qui nous disaient, vous autres, vous passez au travers de toutes sortes de choses, puis on dirait que ça ne vous dérange pas. Mais vraiment, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était la paix de Dieu qui était sur nous, qui faisait que ça ne nous dérangeait pas ce qui se passait. Amen. Mais c'est de voir aussi que cette paix-là nous conduit à une victoire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, ce matin, on va regarder une autre raison qui nous démontre dans la parole de Dieu qu'on peut voir par cette raison-là que, encore une fois, on peut marcher en guérison. Et la raison, c'est quand on regarde aux prières qui ont été faites et aux prières que la parole de Dieu nous dit de faire concernant la guérison. Les prières qui se faisaient dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, lorsqu'il voulait avoir la guérison, et dans le Nouveau Testament, les prières qui nous disent de faire concernant la guérison. Fait que si la parole de Dieu nous démontre, amen, parce qu'on sait très bien que la parole de Dieu, elle a été écrite avec des hommes et des femmes qui avaient l'inspiration de l'Esprit de Dieu sur eux pour écrire la parole. Et on sait très bien que dans Romains 8, 26, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit vient même au secours de nos faiblesses pour prier, justement, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il convient de demander dans nos prières. Fait qu'on sait que l'Esprit-Saint est celui qui guide dans toute la parole, c'est celui qui l'a fait écrire, la parole de Dieu, parce qu'il connaissait les profondeurs de Dieu. Il savait ce que Dieu voulait pour nous. Alors, il y a moins des hommes et des femmes qui ont écrit des prières concernant la guérison et qui nous inspire, nous, à savoir comment prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à faire des prières parfaites en plus. Alors, on va aller à Nombre 12. Ça, c'est facile, c'est Genèse, Exode, Nombre, de Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, Nombre 12, et puis on va regarder dans le verset 1. Marie et Aaron, c'était le frère et la sœur de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Autrement dit, ce qu'il disait vraiment, c'est pour qui qu'il se prend? Alors, regarde ce qu'il fait. Franchement, il n'est pas mieux que nous autres. De toute façon, le Seigneur pourra aussi bien travailler au travers de nous autres qu'il travaille au travers de lui. Alors, l'Éternel l'entendit. Combien de vous savez que l'Éternel entend tout, hein? L'Éternel entendit, « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, dans la tente d'assignation. » Autrement dit, « Je veux vous voir, tous et trois. » Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse qui s'avancèrent tous les deux et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre mon oint? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, c'était sous la loi et puis quand tu désobéissais, ben, t'attirais la malédiction. On sait très bien dans Deutéronome, il parle, si tu obéis, voici la bénédiction, si tu désobéis, voici la malédiction. Alors, elle avait la lèpre. Faut croire en quelque part qu'elle devait connaître mieux que ça, OK? De savoir que son frère, c'est elle-même qui l'avait mis dans un petit panier avec sa mère, puis qui se tenait au bord du fleuve, et puis qui attendait que la fille de Pharaon le voit dans un petit panier sur l'eau, Moïse, son petit frère, puis elle sait très bien l'appel qu'il y avait dans sa vie, elle sait très bien quand il est parti, quand il est revenu, toutes les choses qui sont faites, elle aurait dû craindre un peu de parler contre son frère. Amen. Alors, Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Point final. Il n'a pas dit, « Dieu, si c'est ta volonté, je ne sais pas si c'est vraiment ta volonté qu'elle soit guérie. Peut-être, Seigneur, dans ta grande miséricorde, si tu veux bien. » Non, il a crié à Dieu puis il a dit, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Parce qu'il sait que Dieu peut guérir. Amen. Il connaît la volonté de Dieu concernant la guérison. Autrement dit, « Seigneur, moi je ne retiens pas ce qu'elle a fait contre moi, alors pardonne-lui, puis en ce qui concerne la guérison, il n'y a rien qu'une chose à faire, guéris-la. » Amen. Il ne se cassait pas la tête en 10 000 morceaux pour savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas la volonté. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue? On sait très bien que si vous regardez dans la loi puis les choses qu'il devait faire, il y avait un temps de purification pour les lépreux qui était de 7 jours. Quand que le grand sacrificateur sortait puis les examinait, il y avait un temps qui appelait ça de purification où tu te checkais pour voir si tu n'avais pas des petites animosités qui demeuraient et qui auraient empêché la purification totale de la maladie qui était venue sur toi. Alors, ce qu'il dit vraiment au verset 15, il dit, « Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Oséroth, et il campa dans le désert de Paran. » Autrement dit, Dieu il a dit, « Il n'y a pas de problème avec moi, je vais la guérir. » Mais il y a juste une chose, il dit, « Il y a toujours un temps de purification qui se fait pendant 7 jours, mais je te demande de l'envoyer, pareil comme n'importe quel autre lépreux, pour la purification, qu'elle aille se checker à l'intérieur. Et puis après ça, elle sortira de son séjour, puis vous pourrez partir en paix. Elle va être guérie. » Amen. Alors, il ne se posait pas des questions, c'était « guéris-la ». OK? On va aller à psaume 6. Le psaume 6. Et ici, au verset 3, il prie et il dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Voyez-vous, il ne disait pas « Si tu le veux bien, si c'est possible, si ça fait partie de qu'est-ce que ça tente de faire aujourd'hui. » Parce qu'on dirait des fois que le monde a une foi plutôt espérante, dans une foi plutôt comme quelqu'un qui joue au bingo, comme je pourrais dire. Les gens, ils vont jouer au bingo, ils espèrent qu'ils vont gagner, mais ils ne sont pas sûrs de gagner. Amen. Et il y en a plusieurs personnes que quand ils prient pour la guérison, c'est un peu comme ça qu'ils prient. Ils espèrent que Dieu pourrait les guérir, mais ils ne sont pas sûrs que ça peut leur arriver. Il y a une chose qui est certaine avec l'Ancien Testament, ils ne se posaient pas de questions. C'était « guéris-les, guéris-moi ». Clair et net. Il n'y avait pas de « si ». Il avait dit « Seigneur, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Il disait pas, il n'y avait pas de « si » dans leur prière, « si c'est ta volonté » ou « si ça ». C'était « guéris-les, guéris-moi ». Amen. On va aller voir une autre instance dans Jérémie. Ça, c'est l'Ancien Testament aussi. Dans Jérémie 17. Jérémie 17. Et puis, je vais lire le verset 14. Il prie ici, puis il dit, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » C'est encore plus plein, cette fois ici. Il dit, « Guéris-moi, Éternel, puis je serai guéri. Sauve-moi, puis je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Amen. Voyez-vous, il pouvait prier la guérison avec autant d'assurance qu'il pouvait prier le salut avec autant d'assurance. Il disait, « Guéris-moi, Seigneur, moi l'aide, puis sauve-moi, puis je vais l'aide aussi. » Parce que tu es ma gloire. Autrement dit, tu es vraiment celui qui manifeste la gloire. Amen. Tu es glorieux, tu es un Dieu majestueux, glorieux. Ta gloire se répand sur toute la terre. Fait qu'il dit, c'est pas bien, bien Dieu, Seigneur. Je te demande, guéris-moi, je le sais, moi, guéri. Sauve-moi, je le sais, moi, être sauvé. Fait qu'il se cassait pas la tête du tout à savoir si c'est ta volonté ou ces choses-là. Alors, on peut voir que dans l'Ancien Testament, c'est de cette façon-là qu'il priait. Il était sûr d'eux. Même une fois dans Deux Rois 20. Alors, c'est sûr qu'on va dans différentes écritures parce qu'on veut vraiment démontrer au travers la parole de Dieu comment les gens priaient et agissaient. Dans Deux Rois 20, et puis je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Autrement dit, on sait très bien, en fin de semaine, on a entendu comment nous, on est guidés par l'Esprit à l'intérieur de moi, de nous, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui guidaient, qui apportaient la parole, qui disaient ce qui était pour arriver dans le futur et ces choses-là. C'était le prophète qui apportait la parole. Fait qu'il dit, je vais te le dire la vérité, tu vas mourir. Alors Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ce que je veux qu'on voit ici, c'est comment dans l'Ancien Testament, on sait bien que c'était l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Il faisait quelque chose de pas correct, il y avait une punition qui arrivait, il faisait quelque chose de bien, mais il s'attendait de quelque chose de bien aussi. Alors lui, quand il a eu la parole connaissant le futur, alors le prophète est arrivé et il dit, prépare ta maison parce que ce qui s'en vient, tu es malade à la mort, tu vas mourir. Alors lui, il a voulu plaider sa cause pour pouvoir vivre plus longtemps. Alors il a plaidé sa cause, il a dit, souviens-toi Seigneur, comment j'ai toujours marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai toujours fait ce qui était bien, en voulant dire, je mériterais d'être béni. C'est correct. Au verset 4, ça dit, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est pas si pire. Amen. Il a juste dit, hey, souviens-toi de ce que j'ai fait. Bien, c'est vrai, t'as été toujours un bon gars, t'as été fidèle, t'as tout en fait des bonnes choses. On va ajouter 15 ans. Amen. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. On sait très bien que Dieu faisait, il avait fait alliance avec Abraham, puis il avait fait des promesses à la descendance et tout ça, puis il dit à cause de David. Mais on sait très bien que nous autres, Dieu fait toutes sortes de choses à cause de Jésus. Amen. Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix. Merci Seigneur. Alors, on voit que dans l'Ancien Testament, c'était une ancienne alliance. C'est comme si deux personnes rentreraient en alliance et feraient certains termes de l'alliance. Puis un jour, bien des années plus tard, il y aurait une nouvelle alliance qui sera faite. Puis il dirait, on va baser ça sur des termes encore meilleurs. Amen. C'est exactement comme ça la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. C'était basé sur des termes de la loi. C'était basé sur l'obéissance, la désobéissance. Ça, ça t'amène du bien, puis ça, ça t'amène du mal. Tandis que le Nouveau Testament était une nouvelle alliance qui a été faite. Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Voici, je fais une nouvelle alliance avec vous. » Et c'est basé sur des meilleures promesses. On va aller à Hébreux 8. Hébreux 8, et je vais lire le verset 6. Hébreux 8, verset 6, ça dit, « Mais maintenant, il a obtenu, on parle de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Fait que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur des meilleures promesses. Alors, si dans l'Ancien Testament, eux, selon l'alliance qu'ils avaient, ils s'en allaient à Dieu, puis c'était « Guéris-moi, Seigneur », puis ils se cassent pas la tête. « Guéris-la, Seigneur. Sauve-moi, puis guéris-moi, Seigneur. Puis je sais que tu es un Dieu glorieux. » Et puis que quelqu'un pouvait revendiquer ces choses qu'il faisait, puis Dieu disait « C'est correct, je vais ajouter 15 années. » Je me demande pourquoi on se casse la tête dans le Nouveau Testament quand tout a été basé sur des meilleures promesses à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qu'il a accompli à la croix, à cause de qu'est-ce qu'il a fait, son obéissance. Il a dit, OK, il y avait une alliance qui existait, on va en faire une nouvelle, puis on va la baser sur quelque chose d'encore mieux. Et on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai porté à la croix, vos maladies, vos infirmités, et par mes meurtrissures que j'ai reçues, vous êtes guéris. Alors, tout ce qu'il nous demande, la nouvelle alliance, elle est basée sur ceci, c'est qu'on reçoit ce qui a été fait. Mais Dieu s'attend qu'on va être reconnaissant dans notre cœur, puis il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit puis en vérité. Il recherche des gens qui vont être reconnaissants. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il disait, « Abusez pas de la grâce de Dieu qui vous est faite. » Amen. Alors, on va regarder maintenant dans le Nouveau Testament comment que les gens priaient concernant la guérison. On va aller à Actes 4. On a lu ces Écritures-là. Dans les semaines passées, on les a vus sur un angle différent. Maintenant, on va les regarder sur l'angle de la prière seulement. Alors, ils se sont fait défendre de parler au nom de Jésus. On a démontré l'importance du nom de Jésus. Et les apôtres, parce qu'ils avaient fait une guérison, ils ont dit, on ne veut plus, vous ne faites rien dans ce nom-là. Alors, ils ont prié ensemble et voici comment ils ont prié. On va aller au verset 30 de Acte 4. Ils ont dit, et en étendant ta main pour qu'il se fasse. On va commencer au verset 9. Ça dit, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Comment? « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole avec une assurance. Voyez-vous, les apôtres avaient apporté la guérison à un homme impotent qui a été guéri instantanément et ça s'est fait par les dons de l'Esprit en manifestation. Mais voyez-vous, lorsqu'il leur a été défendu de prier, de faire quoi que ce soit dans ce nom-là, ils n'ont pas dit, « Seigneur, on va prier, puis si c'est ta volonté, là, on te demande vraiment qu'il y ait du monde qui s'est guéri en quelque part. » Non, ce n'est pas comme ça qu'ils ont prié. Ils ont prié, puis ils ont dit, « Donne-nous d'annoncer ta parole avec encore plus d'assurance. » En anglais, ils disent « boldness ». T'es bold. Quelqu'un qui est bold en anglais, assurance en français, c'est vraiment léger comparé à comment c'est dit vraiment en anglais, boldness. Ça veut dire quand on dit quelqu'un, il y a du front. En tout cas, il fonce. Il y a du front. Aujourd'hui, ça nous autres en français, ça prendrait un paragraphe pour traduire boldness. Mais quand il dit « Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance », c'est « Donne-nous encore plus d'audacité. Donne-nous encore plus de foncer. Puis sais-tu comment tu vas faire ça, Seigneur? Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons par le nom de ton Saint serviteur Jésus. » Ils n'ont pas dit « ça tente ». Ils ont dit « Étends ta main, on veut voir des guérisons. » Dans Actes 5, tout de suite le chapitre après, verset 12, ça dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, puis personne n'osait s'ajouter à eux. » Puis au verset 16, ça dit « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Alors, on voit bien qu'il n'y a pas de ci puis de ça. Ils ont juste dit, « Seigneur, nous autres, ce qu'on te demande. » Ils n'ont pas dit, « Si c'est ta volonté. » Ils ont dit, « Ce qu'on te demande. » On te demande de tendre ta main, puis on veut voir des miracles. Puis on veut voir des guérisons. On veut voir ces choses-là. Il y avait beaucoup d'audacité aussi dans leur prière. Puis on dit, « Donne-nous encore plus. » Donne-nous de l'assurance, donne-nous de l'audacité, et même pour faire ces choses-là, pour prêcher ta parole avec assurance. Et la prière a été répondue. Amen. Parce que Dieu veut. C'est ça la chose, parce que Dieu veut. Dans Jacques 5, voici comment ici ils nous disent de prier. Au verset 13, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » C'est clair et net. Prie, ça va se passer, ça va s'en aller. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Bien, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, puis la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. C'est le Seigneur qui le relève. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voyez-vous, ils nous disent dans la parole de Dieu que si quelqu'un est malade, ils parlent de ceux qui peuvent pas, ils sont très malades, ne peuvent pas venir à l'Église, mais s'ils veulent voir la guérison, s'ils y croient, qu'ils appellent les anciens de l'Église. Pourquoi les anciens? Parce que les anciens sont supposés d'avoir passé plus de temps dans la parole de Dieu, sont supposés de l'avoir assez appliqué, qu'ils savent que Dieu répond aux prières. Dieu s'attend que les anciens sont au courant de qui est Dieu puis qu'est-ce qu'il veut faire. Fait qu'il dit qu'il appelle les anciens de l'Église, les anciens qui amènent de l'huile, qui loignent d'huile, puis il dit la prière de la foi va relever le malade. Amen. Va guérir le malade. Puis Dieu le relèvera. La prière de la foi va guérir le malade. Alors, s'ils nous disent à nous autres, appelez les anciens, s'ils disent aux gens, appelez les anciens, puis qu'ils aillent prier, et puis que la prière va guérir le malade, ça doit être parce que Dieu veut. Amen. Amen. Comment Dieu pourrait-il oindre du Saint-Esprit? Je veux dire, comment Dieu pourrait-il prendre son Saint-Esprit qui oint des personnes pour écrire la volonté de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est sa volonté. Si on veut connaître sa volonté, si tu veux connaître la volonté de quelqu'un qui est décédé, tu vas aller lire le testament. Alors, si on veut connaître la volonté de Dieu, on va aller lire son testament. Alors, on s'en va dans le Nouveau Testament. Pourquoi le Nouveau? Parce qu'on vit depuis que Jésus est venu. L'Ancien Testament, il vivait en croyant que Jésus viendrait, puis nous autres, on vit depuis qu'il est venu. Fait qu'on se tient plus dans le Nouveau, parce qu'en force d'être dans le Nouveau, on va comprendre l'Ancien. Ça, on a déjà parlé de cela. Mais voyez-vous, Dieu s'attend qu'on va croire. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que le Saint-Esprit a oint des hommes et des femmes pour écrire la parole de Dieu. Et ces hommes et ces femmes-là ont écrit la volonté de Dieu, son testament qui nous laissait à nous. Alors, si nous, on prend le testament, puis c'est écrit dans le testament que si on fait une prière de foi, Dieu va pouvoir relever le malade. Ça doit être parce que Dieu, il s'attend qu'on va se tenir dans la foi pour pouvoir faire la prière de foi, parce que Dieu veut relever le malade. Amen. Alors, il n'y a pas des ci puis des ça. Il y avait des gens qui se sont approchés de Jésus avec des ci. Mais Jésus a répondu à leur ci. On va aller à Matthieu 8. Matthieu 8. Et puis le verset 1, ça dit, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Voyez-vous, les lépreux, il faut que vous compreniez une chose. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens, ils étaient rejetés de la foule, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple là où était la parole de Dieu à tous les dimanches parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens. C'est des lépreux, c'est des impurs. Et vous restez loin puis vous criez. » C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en avait 10 qui avaient crié de loin puis avaient dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous. » Et puis, parce qu'il ne pouvait pas s'approcher. Fait que pour lui, s'approcher de Jésus, il passe des barrières, si vous voulez. Fait qu'il est à genoux devant lui, puis vraiment, il plaide parce qu'il le sait qu'il n'a même pas le droit d'être proche des gens. Alors, et voici un lépreux s'est approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et dit, « Je le veux. » Ben oui. Dans le grec original, ça dit « je le veux de tout mon cœur ». Dans la lecture originale du grec, c'est comme ça que c'est écrit « je le veux de tout mon cœur ». Il n'a pas dit « ouais, c'est sûr que tu en demandes pas mal, puis je ne sais pas, là, je vais aller checker si vraiment je le veux ». Non. Il a répondu à son « si ». Eux autres, le gars, il est arrivé avec un « si » parce que c'est au-delà de ses forces. Premièrement, il est devant une personne qui ne devrait même pas être. Il ose se présenter et puis il veut plaider sa cause parce qu'il le sait, premièrement, que s'il a la lèpre, il a sûrement bien fait toutes sortes de choses. Hein? Parce qu'eux autres sont encore sous la loi. Fait qu'il a dit, « Si tu le veux. » C'est comme si Jésus répondit, c'est pas une question de si. Je le veux de tout mon cœur. OK? Fait qu'il répond à son si. Amen. Et puis, il dit, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Dans Jean 11, ici, c'est Marie et Marthe, et Lazare. Et puis, eux autres étaient proches de Jésus. Des fois, Jésus se rendait chez eux parce qu'il y en avait une qui était occupée à travailler, Marthe. Mais Marie, elle s'assisait au pied de Jésus puis elle écoutait tout ce qu'il avait à dire. Et il était proche de Jésus. Mais là, Lazare est malade. Fait qu'il envoie chercher Jésus parce que le frère est malade. Et parce que pourquoi qu'il l'envoie chercher? Parce qu'ils savent qu'il va le guérir. C'est clair et net. Mais Jésus prend son temps. Oh, cette maladie n'est pas à la mort. Il prend son temps. Il n'a jamais été nerveux, hein, Jésus. Et puis, il prend son temps, il s'en vient, mais pendant qu'il s'en... parce qu'il le sait que le temps qui s'en vient, il est déjà mort. Alors, il s'en vient, puis là, quand il arrive, ils ont dit, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, qu'il est là, enterré là. Il sent déjà, tu sais. Mais je veux que vous regardiez qu'est-ce que Marthe et Marie disent à Jésus. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, le « si » qu'elle met n'est pas, tu aurais peut-être pu le guérir. Non, non, elle dit, « Si tu avais été ici, c'est sûr que mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, tu l'aurais guéri. OK? Après ça, au verset 32, là, c'est Marie qui vient vers lui et elle dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, si tu avais été ici, la question, ce n'est pas si tu le guéris. C'est si tu avais été ici, je le sais que mon frère ne serait pas mort. Mais elle dit, « Maintenant, il est trop tard. » Mais alors... mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Là, il a mis le « si » à bonne place. C'est pas « si Dieu veut ». C'est pas « si tu avais été ici ». Jésus le dit, « si tu crois, la gloire de Dieu va être là. » Alors, vraiment, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Amen. Quand est-ce qu'il l'a exaucé? Quand il s'en venait puis priait. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le, puis laissez-le aller. » Mais voyez-vous, on voit ici que Jésus a dit, « C'est pas une question de si, si, puis si, ça. Je vais vous dire où ce qui est le si. » Si vous croyez, vous allez la voir, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est là. Dieu, c'est un Dieu glorieux. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Jérémie avait prié et avait dit, « Seigneur, guéris-moi et sauve-moi, parce que tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de miracles. Dieu, le Père Tout-Puissant, ce n'est pas un « si », c'est « il est un Dieu de gloire. Il est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison. » Le « si », c'est nous autres, si on croit. Amen. On va aller à Marc 9. Voyez-vous, ici, il avait amené un jeune garçon aux apôtres. Pourquoi il l'avait amené aux apôtres? Parce que Jésus les avait donné aux apôtres, à un moment donné, pouvoir de guérir les malades. Il a dit, « Allez-y dans les villages. Je vous donne pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, chasser les démons. » Je vous donne autorité, guérissez les malades. Si vous rentrez dans une maison, que votre paix demeure dans la maison. Amen. Alors, ils avaient donné autorité. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui allaient voir les apôtres. Ils devaient le savoir que les apôtres avaient déjà fait ça. Amen. Alors, on va commencer à lire au verset 16. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Auprès de toi, ça veut dire le monde qui font comme Jésus, c'est comme si tu t'approches de Jésus. Il l'avait amené aux apôtres. Fait que c'est pour lui, c'est auprès de toi. Ils sont supposés d'être comme toi. Amen. Alors, il dit, « En quelque lieu... » qu'il le saisisse, cet esprit-là, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, puis ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi et on le lui amena. Voyez-vous, Jésus leur parle à eux autres, les apôtres. Là. Il dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule? Vous devriez être capable de faire ce que vous me voyez faire. » Alors, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et il se roula par terre en écumant. Jésus, il n'a pas paniqué, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas un paniqueux. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Voyez-vous, le petit gars, il est après rouler à terre, il est après écumer, puis tout ça, puis ça ne panique pas Jésus. Il dit, « Fait combien de temps que ça y arrive, ça, cette affaire-là? » Alors, il dit, « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Comme j'ai déjà dit, merci Seigneur qu'il tombe dans l'eau après, il va tomber dans le feu. Amen. Sinon, ça brûlerait longtemps. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Regardez bien comment c'est écrit. Jésus lui répondit, nous autres, quand on allait à l'école, puis on apprenait à lire, il faut la faire, qu'est-ce qu'il mettait? S'il mettait un point d'exclamation, on ne disait pas, « Allô? » C'était, « Allô? » Parce qu'il y avait un point d'exclamation. Si tu peux, il y a un point d'exclamation. Alors, on va le lire comme on l'a appris à l'école. On va le lire. Mais si tu peux, fin du verset 22, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux. En voulant dire, qu'est-ce qu'il est ici? C'est quoi ton problème? Il dit, si tu peux, Jésus le regarde. Il vient juste de dire aux apôtres, vous êtes une race incrédule, vous n'avez pas pu rien faire pour ce petit gars-là. Puis lui, il a l'audacité en plus de dire à Jésus lui-même, si tu peux. Fait que Jésus lui répond, si tu peux, point d'exclamation, trois petits points, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Bien, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » En voulant dire, « Aide-moi un petit peu. » Des petites faiblesses là-dedans. Amen. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sot, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Ça y est, il est mort. » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Il était guéri. Amen. Mais on voit très bien ici dans la parole de Dieu que quand les gens arrivaient avec des si, Jésus réglait le problème. Le lépreux, Jésus a répondu, « Je le veux de tout mon cœur. » C'est quoi le « si tu le veux »?« Je le veux de tout mon cœur. » Les Marthe puis Marie, Jésus a répondu, « Si tu crois. » Il dit, « Ne t'ai-je pas dit plutôt que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu vas le voir. » Parce que quand on arrive à Dieu par la foi, il n'y a plus de « si ». Dieu veut. Il dit, « Dieu, il veut. » Mais si tu crois, tu vas le voir, ce vœu-là, là. Ce qu'il veut. Tu vas le voir, la gloire de Dieu. La même chose pour le petit gars. Il dit, si tu peux, voyons donc, tout est possible à celui qui croit. Alors vraiment, on voit que dans la parole de Dieu, quand on va pour la guérison, il n'y a pas de si. Oh Seigneur, si c'est ta volonté. On le sait, la volonté de Dieu. On la connaît, la volonté de Dieu. Si on lit son testament, on va connaître ses volontés. Amen. Et sa volonté, c'est qu'aucun de nous ne périsse. Sa volonté, c'est que Jésus lui-même l'a prié, verset 22, Luc 22. On va terminer avec ça. Luc 22. Et puis, je vais lire le verset 40. Ça, c'est lorsque Jésus est allé dans le jardin, puis est allé prier avant d'être vendu, et puis pris par les Romains, puis amené pour être crucifié, puis mourir pour nous, puis régler la situation une fois pour toutes. Amen. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il parle à ses disciples. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voudrais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Le seul temps que tu pries un « si » dans ta vie, c'est concernant le plan de Dieu, le futur. C'est le seul temps. Jésus, il a dit, « Père, je sens que c'est ça que je dois faire. Mais si tu le veux, éloigner cette coupe pour que je puisse passer par la croix, mourir, porter les maladies, les péchés du monde, descendre aux enfers, si tu le veux. » Mais dis non pas ma volonté, mais plutôt que la tienne se fasse. Des fois, les gens vont dire, « Seigneur, si tu le veux vraiment, un peu comme notre invité disait toujours, « Seigneur, il y a deux choses que j'aimerais mieux pas faire, que je veux pas. C'est prêcher aux ados, puis aller en Europe, Outre-mer, en mission. » Mais à un moment donné, il est arrivé à la place, « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Okay? Concernant le plan de Dieu dans ta vie, concernant le futur, on ne veut pas juste faire à notre tête. On veut sa volonté. Mais c'est le seul endroit dans la parole de Dieu où il y a des « si ». C'est concernant le futur. « Seigneur, si tu veux que j'aille là, je vais y aller. » Mais concernant la guérison, concernant le salut, concernant le pardon des péchés, Dieu veut. Il nous l'a montré dans sa parole. Même la parole, le Saint-Esprit, il y a moins des hommes et des femmes de Dieu qui ont écrit la parole de Dieu, qui nous démontrent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament comment ils priaient pour la guérison. Appelle les anciens qui prient pour le malade, puis Dieu va leur lever. Point final. C'est comme ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Point final. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Point final. Seigneur, guéris-moi, guéris-la. C'est comme ça qu'ils priaient. Parce qu'ils savent que Dieu ne nous veut pas malades. Pourquoi Jésus aurait porté nos maladies, nos infirmités? Il aurait pris la peine. Voyez-vous, Dieu voulait que Jésus porte les maladies puis les infirmités du monde. C'est pour ça qu'il disait, « Si tu voudrais éloigner de moi cette coupe. » Il savait ce qui allait passer au travers. Mais il dit, « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dieu voulait que Jésus souffre à la croix. Dieu voulait qu'il y ait des meurtrissures sur lui qui porte ça. Parce qu'il dit, « Grâce à ça, je vais pouvoir guérir tous ceux qui viendront à moi, croyant dans ce que tu as fait. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi c'est écrit si directement que ça? C'est parce qu'il faut qu'on réalise que Jésus était dans un corps humain et l'effort qu'il devait faire. Il ne peut pas nous demander à nous de faire des efforts, de tout laisser, de s'en aller en Afrique, de laisser des fois la richesse, les biens, toutes ces choses-là, pour aller souffrir des fois dans des endroits où lui-même n'aurait pas été capable de le faire. Ça dit qu'il n'y a rien qui nous est demandé qui n'ait été humain. Lui était un humain, puis lui-ci, c'était dur ce qu'il devait faire côté humain. Se faire fouetter, porter une croix, souffrir à la croix, toutes ces choses-là. Mais après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. On sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu faire la volonté de son Père. C'était quand même une obéissance de sa part. La parole de Dieu dit qu'il a été obéissant jusqu'à mourir à la croix. Il fallait une obéissance de sa part. C'est la seule place qu'il y a un si. Amen. Des fois, le Seigneur, il nous demandait des choses, le pasteur Réal et moi. Et puis, on disait, si c'est vraiment ce que tu veux, Seigneur, confirme-le dans notre cœur. Mais c'est le seul temps qu'on prie un si. Mais quand on arrive pour la guérison, on sait très bien comment prier la parole de Dieu. Amen. Vraiment, on va aller dans une dernière écriture, c'est Hébreux 4. Et ça parle de Jésus. Jésus est devenu un souverain sacrificateur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un qui était nommé souverain sacrificateur, puis il faisait l'expiation de ses péchés, puis il immolait un bœuf, un animal pour l'expiation des péchés du peuple. Mais Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous. Lui-même a expié nos péchés. Il n'y en avait pas, lui. Mais ça dit ainsi, verset 14, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On n'a pas quelqu'un qui ne nous comprend pas. On n'a pas quelqu'un qui ne comprend pas qu'on peut avoir mal ici, mal là, puis ça peut être difficile. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Il a été, la tentation, elle aurait été forte de dire, « Seigneur, Dieu, je ne suis pas capable. » J'ai tout fait ce que tu m'as demandé sur la terre. Je suis allée de lieu en lieu. J'ai guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais je ne suis pas capable de voir toute cette foule-là venir, me condamner injustement, me traîner dans la boue, me traîner dans la rue, me fouetter, mourir. Je ne suis pas capable. Ça, c'est trop. Non. Il a été tenté comme nous d'abandonner. Il a dit, c'est la seule place qu'il dit, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Alors, sans commettre de péché. Donc, il nous dit quelque chose à nous. Approchons-nous donc avec assurance. au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur d'aller au trône de Dieu. On a un grand souverain sacrificateur, Jésus, qui a tout accompli pour nous. Il a traversé les cieux. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Et puis, la parole de Dieu dit qu'il continue d'intercéder pour nous. Alors, nous autres, Dieu s'attend qu'on va s'approcher avec assurance du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Puis Jésus se penche et dit, « Oui, il croit dans tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, le Seigneur, pour procurer la vie, il y croit. Puis ils viennent vraiment avec assurance et avec foi. » Dieu dit, Puis je le sais, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ton sang parle encore aujourd'hui. Amen. Puis quand il est apparu après avoir ressuscité des morts, il a dit à Thomas, « Mets ton doigt dans mes trous. Mets ta main dans mon côté. Crois-tu maintenant? » Ça veut dire qu'assis à la droite de Dieu, il y a juste à faire ça. Puis tu dis, « Père, j'ai souffert pour eux autres. » Amen. Merci Seigneur. Pourquoi on douterait, puis on aurait peur, puis on mettrait un « si » dans une prière de guérison quand tout a été accompli à la croix et que la parole de Dieu nous démontre que même dans l'Ancien Testament, il n'en mettait même pas de « si ». C'était « guéris-moi, Seigneur. » Amen. Alléluia. Fait qu'on va se lever debout. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jour et nuit. Amen. Tellement, je reconnais comment Dieu, il nous a aimés. Et je t'ai aimé le monde. Et il nous a aimés, puis il nous aime encore. Amen. Parce qu'il s'est arrangé pour que son amour dure toujours. Wow! Il s'est arrangé pour que son amour dure à toujours. Il a fait une alliance avec nous pour s'obliger à être obligé d'être en amour avec nous toujours. Wow! Amen! Comme un homme va marier une femme, puis devant Dieu et les hommes, et prononce « Je vais t'aimer à la vie et à la mort. » Amen! C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se marier aujourd'hui, parce que c'est vraiment un engagement d'aimer pour toujours, amen. Mais Jésus, en faisant alliance, un mariage, c'est une alliance. Quand en faisant alliance avec nous, il s'est obligé de nous aimer éternellement. Amen. S'il y en a qui ont besoin de guérison ce matin ou pour quelqu'un d'autre, on a des linges, on va les sortir, on va prier sur ça. Sinon, on va prier sur les requêtes, puis on va remercier Dieu pour qui il est. Amen. Hallelujah.